France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Mercredi 18 novembre, bienvenue dans le 7-9. Bonjour à tous. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, un redéconfinement progressif. Emmanuel Macron prendra la parole la semaine prochaine pour présenter sa stratégie de sortie du confinement après 4 nouvelles semaines sévères sur le plan des restrictions. Dès hier soir, le Premier ministre a levé le voile sur l'état d'esprit de cette nouvelle étape dans la lutte contre le Covid. Tout cela en détail, Agnès, après les autres titres.
Les patrons de bars et de restaurants ne voient toujours pas le bout du tunnel. La presse numérique, elle, connaît une véritable embellie. L'autopsie d'un couple au procès de Jonathan Daval à Vesoul. Une colonie juive qui portera le nom de Donald Trump. Et puis exporter du champagne bio et importer du cacao sans émission de CO2, c'est possible.
Les invités du 7-9 ce matin, 7h50 Léa.
Six lettres qui incarnent à elles seules le grand méchant loup de cette fin d'année, l'ogre qui menace notre modèle français conspué par l'ensemble des politiques. Que répond Amazon? Eh bien justement, nous lui donnons la parole en la personne de son patron Frédéric Duval, DG français d'Amazon France donc, sera à 7h50 avec nous.
A tout à l'heure Léa, à 8h20 on se retrouve pour le grand entretien de la matinale avec l'écrivain voyageur Sylvain Tesson. Il publie L'énergie vagabonde, un gros bouquin dans la collection bouquin de Robert Laffont. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter.
Les conseils de défense s'enchaînent, un aujourd'hui, un autre dans 8 jours, et une très attendue intervention du chef de l'État, donc, dans le courant de la semaine prochaine, pour présenter les grandes lignes d'un redéconfinement qui sera cette fois progressif pour ne pas répéter les erreurs du passé. L'objectif, desserrer les taux tout en maintenant certaines contraintes pour ne pas que l'épidémie reparte comme après l'été dernier. Hier soir, devant la commission d'enquête de l'Assemblée, le Premier ministre a commencé à préparer les esprits à cette nouvelle phase. Simon Le Baron.
Il était le monsieur déconfinement avant de devoir gérer le reconfinement. Et si parfois il s'y perd lui-même un peu...
La priorité des priorités aujourd'hui, c'est de réussir l'actuelle phase de déconfinement, de reconfinement, pardon.
Jean Castex met pour la première fois sa nouvelle casquette, celle de monsieur redéconfinement. Alors il le dit, oui, on peut espérer la réouverture des petits commerces.
Si les indicateurs épidémiologiques suivent la tendance qui est la leur aujourd'hui, alors effectivement, autour du 1er décembre, avec des protocoles améliorés, des gestions de flux, etc., on pourra envisager de rouvrir les commerces qui ne sont pas de première nécessité.
Mais attention, prévient le Premier ministre, même si l'amélioration sanitaire permet un allègement des mesures, on ne reviendra pas à la situation d'avant confinement.
Il y aura des dispositions de freinage, qui sont en cours de calage, qui perdureront parce que la situation se sera améliorée, mais pas suffisamment, et puis surtout pour éviter qu'il y ait trop d'écart entre une période de confinement et une période de déconfinement.
Autrement dit, éviter le stop and go, l'alternance de périodes confinées et déconfinées, tout en réussissant à tenir encore plusieurs mois jusqu'à l'arrivée d'un vaccin. Grâce à un nouveau couvre-feu, par exemple, Jean Castex ne le dit pas, c'est maintenant à Emmanuel Macron qu'il revient de trancher.
Décisions qui s'appuieront sur les chiffres, 45 500 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, plus de 2 millions de personnes contaminées depuis le début de l'épidémie et une légère baisse du nombre de patients en réanimation, 4 854 hier. Alors certaines mesures semblent déjà actées, la réouverture au 1er décembre des petits commerces, la reprise du sport pour les enfants et la célébration des cultes selon un protocole sanitaire précis. Les patrons de bars et de restaurants, eux, devront encore attendre sans doute jusqu'au début de l'année prochaine. Un tiers des entreprises du secteur serait au bord du dépôt de bilan, selon l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie. Maxime Debs a rencontré un jeune restaurateur dont l'établissement est fermé avant même d'avoir ouvert. Reportage.
Voilà, donc ce qui est prévu là, c'était la cuisine.
Dans le 10e arrondissement de Paris, des ouvriers s'affairent aux finitions. Alexandre, lui, se demande presque à quoi bon.
C'était prévu début décembre, grosse ouverture. Pour l'instant, on a tout laissé tomber.
Après avoir tergiversé, ce jeune homme, 34 ans, a décidé de se mettre à son compte au sortir du premier confinement. Fin août, il rachète ce restaurant chinois du quartier.
On s'est dit, il faut bien se lancer. Nous, on a déjà atteint le pire. Dans notre tête, nous, tout allait se régler, on va dire. Et finalement...
Et finalement, le reconfinement, avant même d'avoir ouvert, 170 000 euros investis dans une affaire qui ne peut pas démarrer et aucune mesure, selon lui, qui ne lui soit directement destiné.
J'ai ma comptable qui tous les jours me tient au courant de toutes les aides, mais on n'a strictement droit à rien.
Alexandre qui refuse d'envisager le pire du pire, comme évoqué, une possible fermeture jusqu'au 15 janvier.
15 janvier, moi, clairement, j'ai pas du tout imaginé ça. Donc, je pense qu'on va essayer de bricoler comme on peut. Mais si c'est 15 janvier, ouais, c'est dramatique.
Reste bien la vente à emporter, pas non plus la panacée.
La majorité des gens qui font de la vente à emporter, ils font 20-25% de leurs chiffres. C'est pas avec ça qu'on vit, ça c'est sûr. Donc, on va voir.
On va voir et croiser les doigts. De toute façon, conclut-il, on n'a pas vraiment le choix.
Le reportage de Maxime Debs. D'autres, en revanche, tirent plutôt bien leur épingle du jeu. C'est le cas de la presse en ligne. Près de 588 millions de visites du 26 octobre au 1er novembre pour les sites d'actualité et d'infos généralistes. Le détail avec Alexandra Hakoun.
Le champion toute catégorie, c'est le journal Le Monde. Selon le baromètre de diffusion de l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, le quotidien a passé en septembre la barre des 300 000 abonnés en ligne. Le numérique, initié il y a 15 ans, représente désormais les trois quarts de sa diffusion. Louis Dreyfus, c'est le président du directoire du Monde.
Quand j'ai pris mes fonctions il y a 10 ans, il y avait 20 000 abonnés pur numérique. Vous voyez, on va finir l'année à 350 000. Et puis, on a eu, avec Jean Fenoglio, une stratégie de chaque fois réinvestir une grande partie de la croissance de notre chiffre d'affaires d'abonnés dans la rédaction. L'an prochain, les recettes des abonnés numériques du Monde permettront d'autofinancer toute la rédaction du Monde.
Sans atteindre un tel niveau, la concurrence n'a pas de quoi rougir. Le Figaro, deuxième, a dépassé les 200 000 abonnés numériques. L'Équipe, les 130 000. Les Échos, 85 000. Quant à Libération, le titre signe la plus belle poussée, plus 75% en un an, et frôle désormais les 50 000 abonnés numériques.
Les chiffres qu'on a tous, en tout cas tous les quotidiens nationaux, prouvent que les Français sont prêts à payer pour l'information. Tout le monde est en train d'atteindre des beaux chiffres, hein. Et ça veut dire qu'on va avoir des médias français qui seront en meilleure santé, qui seront plus solides, donc qui pourront être plus indépendants. Voilà, donc tout ça, ce sont des vraies bonnes nouvelles pour les journaux français.
Mais qui, malheureusement, en termes financiers, ne suffisent pas encore à compenser les pertes dues à la chute des ventes papier.
Ne l'appelez plus projet de loi contre les séparatismes, mais projet de loi confortant les principes républicains. Le Figaro publie ce matin un entretien croisé des ministres de l'Intérieur et de la Justice, désormais côte à côte, pour défendre un texte qui sera examiné le 9 décembre en Conseil des ministres. Deux nouveaux articles ont fait leur apparition, dont l'un répondant à l'assassinat de Samuel Paty. Nous y reviendrons en détail dans le journal de 8h. Un face-à-face très attendu aujourd'hui au procès de Jonathan Daval, avec l'audition des parents d'Alexia et l'interrogatoire de l'accusé. Les parents de la victime attendent des explications sur ce déchaînement de violence ce soir d'octobre 2017, au domicile de ce couple en apparence idéal, mais en proie à une profonde souffrance. Corinne Audouin suit les débats devant la cour d'assises de Haute-Saône.
Il n'a prononcé que trois mots depuis lundi matin, Daval, Jonathan, pour donner son état civil, et oui, pour reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Depuis, il écoute, parfois recroquevillé dans le box, les experts disserter sur les médicaments que prenait Alexia ou sur l'hypothèse inédite et vite balayée d'un viol post-mortem. Pour Randall Schwerdorfer, l'avocat de Jonathan Daval, il est temps qu'il s'exprime.
Ça fait deux jours qu'on est sur des problèmes parasitaires et on va peut-être attaquer la vraie problématique, la problématique du couple, la dynamique de ce couple qui était en souffrance. Parce que je pense que Jonathan souffrait beaucoup. Je pense qu'Alexia était une jeune femme qui souffrait aussi énormément de cette situation et qu'on va pouvoir enfin analyser réellement les tenants et les aboutissants de ce drame. J'entendais parler de féminicide, c'est totalement inadapté sur cette affaire. C'est pas un crime de possession, très loin de là. Mais je pense que le terme conjugopathie résumait tout. Maladie du couple, oui, il a tué Alexia. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on parle de ça, de ce passage à l'acte. Il faut qu'on parle de son couple. Il faut qu'on parle de cette dynamique qui a conduit à ce drame. Voilà, ça c'est le vrai procès.
Jonathan Daval reviendra sur cette pression qu'il disait ressentir de la part de sa femme à cause de ses problèmes d'érection alors qu'ils essayaient d'avoir un enfant, et sur cette fatale soirée du 27 octobre où, selon ses mots, tout ce qu'il avait accumulé est remonté d'un coup. Vesoul, Corinne Audouin, France Inter.
Et le verdict est attendu en fin de semaine.
Il est 7h09. Une nouvelle colonie juive, Agnès, portera le nom de Donald Trump.
Une colonie installée sur le plateau du Golan, une zone conquise sur la Syrie et annexée par Israël en 1981. Avant Donald Trump l'an dernier, aucune grande puissance n'avait reconnu cette annexion. Mike Pompeo se rendra sur place lors de sa visite en Israël qui débute aujourd'hui. Frédéric Mettezo a lui rencontré les promoteurs de ce projet. Reportage.
Bienvenue à Ramat Trump, ou les Hauts de Trump. Le nom est écrit en hébreu et en anglais avec les drapeaux israéliens et américains. Gal Gafni, le vice-président du conseil régional du Golan, exulte.
In 2 months, we will have here 20 families.
Dans 2 mois, nous aurons 20 familles.
des purs pionniers comme on n'en voit plus en Israël et peut-être même en Occident. Des gens qui vivront une vie confortable et viendront ici pour accomplir la grande mission sioniste historique.
Mais à quelques kilomètres de la Syrie et du Liban, dans ces montagnes qui rappellent le Larzac, l'excitation n'a pas gagné tout le monde. Eyal habite un village voisin, il milite pour l'association des Jardins du Golan.
J'ai surtout peur que les gens soient plus nombreux à s'installer ici et qu'ils construisent des grandes villes. Après les déclarations de Trump, des investisseurs américains ont déjà commencé à s'intéresser au Golan. Ça nous fait peur.
Pour Dina, la colonie Trump est une gabegie.
C'est difficile de vivre ici. On a besoin pour nous plus d'argent du gouvernement. Il a pris de l'argent qui était pour nous. C'était pour faire un geste, mais le geste coûte de l'argent.
L'annonce de la venue de Mike Pompeo ici ne déchaîne pas les passions. Sur le plateau du Golan, Frédéric Mettezo, France Inter.
Israël qui a mené cette nuit des attaques aériennes dans cette région du plateau du Golan contre des objectifs iraniens en Syrie. Damas parle de 3 militaires tués. La Mannschaft essuie sa plus sévère défaite depuis 1931. L'équipe d'Allemagne battue 6-0 par l'Espagne hier soir en Ligue des Nations. Les Bleus terminent leur année en fanfare. 4-2 face à la Finlande. Deux buts de Giroud, un de Pavard et un de Coman. Les Bleus en tête de leur groupe pour la phase finale. Et puis pas de changement en tête du Vendée Globe avec le tri Thompson Ruyant Le Cam, Jérémy Beyou a lui repris la mer. La mer encore avec le départ ce matin de Saint-Malo d'un bateau pas comme les autres, un bateau cargo à la voile qui va mettre le cap sur les États-Unis puis les Caraïbes pour aller chercher du cacao et du café. Une initiative de l'entreprise Grain de Sail. Objectif, émettre moins de CO2 tout en restant rentable. Alors utopie ou réalité? Élément de réponse avec Célia Kiré.
C'est l'histoire d'une chocolaterie bretonne qui décide de prendre le large pour aller chercher elle-même son cacao en République dominicaine et au Pérou. Les patrons, deux frères, ont construit un voilier de 24 mètres capable de transporter 50 tonnes de marchandises. Pour être plus rentable, ils passent par New York, déposer d'abord des caisses de vin bio, puis ils mettent le cap sur les Caraïbes où ils rempliront leur cale avant de revenir à Saint-Nazaire d'ici 3 mois. La boucle est rapide et surtout plus écologique. Le président de Grain de Sail, Jacques Barrault, estime que la technique existe. Désormais, il ne faut pas s'en priver.
On n'a plus vraiment le choix. Il faut vraiment essayer de développer des projets qui aient un petit peu de sens, notamment sur le plan environnemental. On a aujourd'hui accès à des technologies très modernes, très fiables, très, très robustes, qui permettent de propulser un navire à la voile de manière donc très décarbonée. On a fait une estimation que c'est vraiment un navire à voile avec un moteur de 115 chevaux. Donc c'est un tout petit moteur qui va vraiment très peu servir. Le bilan carbone estimé aujourd'hui est donc divisé par 17.
Et c'est rentable. Avec ce voyage, l'entreprise sera fournie en cacao pour 1 ou 2 ans. Elle prévoit déjà de construire 2 autres voiliers cargo encore plus grands, d'une capacité de 250 tonnes. Si ce premier essai est transformé, des épices et du rhum arriveront également sur la côte atlantique par voilier. Le rêve d'une importation presque neutre en carbone pourrait devenir réalité.
Voilà, cacao, café, parfait pour le petit déjeuner, le rhum un peu moins.
Ouais, quoique, merci Agnès Soubiran.